avocats, heureusement, nous sommes soutenus par des avocats, eux aussi bénévoles, eux aussi compétents. Et d'autre part, il y a des formations pour tous les bénévoles, parce que sans ça, c'est impossible de suivre, de comprendre, de connaître les parcours, etc. Donc, à la Ligue des droits de l'homme, beaucoup de sections participent à ce genre d'informations, participent aussi à diffuser l'information de ce mauvais accueil des migrants en général. Ils ne sont pas les seuls, puisqu'en fait, en cherchant un petit peu, j'ai trouvé que, premièrement, l'aide médicale État, ça avait été créé en 1954, qu'ensuite, il y a un certain nombre de textes, en particulier la Convention de Genève, qui accorde aux réfugiés résidents régulièrement sur un territoire le même traitement en matière de secours public et de sécurité sociale que les habitants de ce territoire. Même chose pour à l'ONU, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des exilés. En 2013, la directive européenne sur la protection internationale revient sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé psychique et mental, avec un accès aux soins d'urgence et aux traitements essentiels des maladies et troubles mentaux graves. C'est une directive européenne. Et puis, il y a un certain nombre de rapports qui ont toutes les mêmes conclusions, qui sont pertinentes et dont manifestement nos dirigeants ne sont pas vraiment informés. Par exemple, le défenseur des droits Jacques Toubon a fait un rapport dans lequel il dénonce l'augmentation des réclamations concernant les personnes malades étrangères, la fraude évoquée souvent pour les demandes de soins, en fait qu'elle ne représente que moins de 1% des demandes, ce qui est quand même très très peu de choses, l'arbitraire des décisions, la régression ou l'exclusion des droits, le refus de droit au séjour de personnes gravement malades, le transfert des compétences des médecins de l'OFI du ministère de la Santé vers le ministère de l'Intérieur avec une baisse drastique, j'emploie le mot de M. Toubon, du nombre d'avis favorables, la demande de protection contre l'éloignement qui est un droit mal connu, mal exécuté. Vous voyez, il y a déjà des précisions considérables. Deuxième rapport, le rapport de l'Académie de médecine qui date de 2020, il s'intitule « Immigration en France, situation sanitaire et sociale ». Pour ceux qui sont peu informés, l'Académie de médecine, ce n'est pas un rempart de dangereux gauchistes. Hein. Ce sont des gens d'un certain âge, qui ont certaines traditions. Eh bien, ce rapport constate exactement la même chose en constatant que les adultes jeunes en bonne santé se dégradent rapidement dans les conditions de précarité, d'addiction, de retard de titre et de l'absence de médecins ou de refus de soins ou de la non-utilisation, de la non-demande de l'aide médicale État. Les femmes jeunes sont en augmentation, elles viennent souvent enceintes avec des jeunes enfants, elles ont subi des violences, mariage forcé, mutilations sexuelles et en dans le rapport, ils disent c'est surtout les pays anglophones pour la traite et les prostitutions. C'est vrai que c'est plutôt des Nigériennes. Les mineurs non accompagnés sont des jeunes de plus en plus vulnérables. L'ASE relève des régions avec des grandes disparités selon les régions. Et ils ont une pathologie de SDF lorsqu'ils ne sont pas hébergés avec une absence de scolarisation. Et des troubles psychiques si le refus de minorité devient définitif. La pathologie psychopsychiatrique est majeure. Le conclusion de ce rapport, encore une fois, de l'Académie de médecine. L'État défaillant se défausse sur les ONG. La fraude est faible, l'accueil insuffisant avec un logement indigne. Le transfert des médecins de l'OFI du ministère de la Santé vers le ministère de l'Intérieur s'est accompagné d'une diminution drastique, supérieure à un tiers des titres accordés. C'est un enjeu de santé publique. L'évaluation par l'OFI est trop sommaire et on considère qu'il y a des différences d'accès aux services de santé selon le statut juridique du pays d'accueil. Je continue.
Bonsoir, ce soir nous reparlons du SNU dans Les Amis d'Orwell. Cette semaine, on reparle donc très brièvement du SNU, le service militaire qui ne dit pas son nom, donc le service national universel. En octobre, on avait déjà consacré une émission entière avec deux membres du collectif contre le SNU de la région parisienne. Et nous annoncions à l'époque la réunion publique qui s'est déroulée dernièrement le 18 novembre à la Bourse du Travail de Paris. Alors nous y étions. Et nous avons encore appris plein de petites choses sur ce dispositif censé rapprocher la jeunesse de ses armées. Rappelons que le service militaire n'a jamais été aboli, juste suspendu en 97, et que depuis son arrivée à l'Élysée, Macron a ce grand projet en tête, rétablir l'obligation pour les 15-17 ans de se présenter sous les drapeaux. Comme la société n'est visiblement pas complètement convaincue, cela fait donc 5-6 ans qu'une petite musique se diffuse discrètement à nos oreilles pour que le service national universel devienne une sorte de norme sans que le mot obligatoire ne soit encore prononcé. L'idée, c'est donc de diffuser l'esprit de défense dès le plus jeune âge et de le présenter comme une forme noble de l'engagement. Ce soir, donc, on va diffuser quelques prises de parole qui ont été faites lors de cette réunion publique du 18 novembre. Les prises de son viennent de l'actualité des luttes, l'émission de FPP. Merci Joël. Vous entendrez d'abord un court aperçu du dispositif et de ses dernières nouveautés. Par exemple, on vient d'apprendre, il y a un décret qui vient de sortir, que les élèves de seconde qui font leur stage de cohésion SNU seront dispensés du fameux stage en entreprise, qu'on appelle pudiquement séquence d'observation au milieu professionnel. Donc on apprendra aussi que d'autres petits bonus sont prévus pour les élèves qui acceptent l'embrigadement. Et dans cette réunion du 18 novembre, le collectif a présenté un travail très intéressant, réalisé tout récemment, la cartographie des liens armée-jeunesse. Alors c'est difficile d'en parler à la radio bien sûr, mais c'est pas facile non plus de montrer cette cartographie, puisque ça se présente pour l'instant sur un panneau en bois de 3 mètres sur 3 environ, un truc énorme. On a pris quelques photos qu'on mettra sur notre site, mais c'est tellement dense comme information qu'il est difficile de tout distinguer sur la carte. Vous entendrez tout à l'heure des interventions qui vont détailler justement quelques ramifications de cet immense dispositif. Allons-y, je relâche la parole.
Citoyenneté, écologie, engagement, résilience, émancipation, égalité des chances, liberté, jeunesse, valeurs républicaines, développement durable, fraternité, unité nationale, cohésion universelle.
C'était les mots-clés d'Emmanuel Macron pour vendre le SNU.
Bonjour, alors moi j'ai pour première mission de rappeler les trois phases qui constituent le SNU. Puisqu'on pense, ce qui est mis en avant par la propagande gouvernementale, c'est le séjour de cohésion de 12 jours. Mais en fait, il y a trois périodes à réaliser en tout, si on va aller au bout du dispositif. Donc la première étape, c'est le séjour de cohésion qui dure 12 jours. Ensuite, il y a une mission d'intérêt général qui représente 84 heures. Et ces deux premières phases sont obligatoires si on veut valider le SNU. La troisième phase est facultative. Elle s'intitule « Période d'engagement ». Elle peut durer de 3 mois à 1 an. Elle concerne des jeunes de 16 à 25 ans. Alors, pour petit rappel, le séjour de cohésion, c'est 12 jours où sont présents éventuellement des enseignants pendant 3 jours maximum. Mais sinon, l'encadrement est essentiellement militaire. Ou, quand il n'y a pas de militaire, les associations d'éducation qui ont bien voulu organiser. Il y a un uniforme, il y a la levée des couleurs, il y a la Marseillaise et il y a un encadrement pour bien redresser les jeunes. On précise que les jeunes qui sont inscrits au SNU deviennent des réservistes et ça, ils n'en sont pas forcément conscients. Et le général Menaouin, qui avait conçu le dispositif, a bien précisé que ce n'est pas le séjour de cohésion qui était important, c'est le miel pour attraper, c'est le produit d'appel et ce qui est important après, c'est la mission d'intérêt général. Le jeune peut s'inscrire dans une association, peut faire de l'économie sociale et solidaire. Et tout ce qui concerne l'écologie, le sport ou la solidarité sont des produits d'appel pour attirer. Mais en fait, si le jeune ne sait pas trop où aller, on va très vite lui conseiller les corps en uniforme pour faire sa mission d'intérêt général. donc tout ce qui est gendarmerie, armée et compagnie. Et si on a fait tout cela, pour l'instant c'est pas très clair, mais il est promis une valorisation sur Parcoursup, la plateforme qui oriente vers le supérieur. Ce n'est pas encore bien défini, mais on sent qu'il va y avoir un bonus ou voilà. Donc le jeune qui n'a pas fait son SNU se verra privé de ce petit bonbon. Et puis toute une série de petits bonus aussi existent pour passer le BAFA, pour passer son permis de conduire. Récemment, ils sont sortis des réductions sur le train. Voilà, plein de petits bonus qui attirent aussi. Si on ne veut pas se contenter de phase obligatoire, on fait cette troisième phase facultative entre 16 et 25 ans. Et là, c'est vraiment de préférence dans un corps en uniforme. Voilà, là, ça veut dire qu'on est vraiment lancé dans l'aspect militaire.
Moi, je vais vous parler des deux derniers dispositifs pensés par l'Éducation nationale pour attirer les jeunes faire le SNU. Parce qu'à l'heure actuelle, jusqu'à maintenant, le SNU était un dispositif facultatif où des jeunes s'inscrivaient ou essentiellement ne s'inscrivaient pas. Il y avait deux problèmes. Premièrement, c'est que les places n'étaient pas du tout pourvues parce que personne ne voulait faire ce truc-là. Et que 40% des volontaires étaient des fils de militaires ou de flics. Bon, c'était pas exactement le projet, et qu'il n'y avait que 2% des classes populaires, c'est-à-dire deux fois moins que dans la population française. Donc comme le SNU, a priori, ça vise plutôt les pauvres, parce que le but c'est préparer la guerre, le dispositif ne touchait pas la cible a priori. Donc la question, ça va être comment forcer les jeunes à faire ce truc, alors que c'est un peu compliqué de les forcer, parce que c'est des jeunes de 15 à 17 ans, donc c'est des jeunes mineurs, qu'on peut difficilement soustraire à l'autorité parentale, et le stage de cohésion du SNU, là où on chante la Marseillaise, c'est-à-dire du matin, on rentre dans la boucle, tout ça, ben ils dorment plus à la maison, ils sont dans des camps, là, avec des gens qui les encadrent, donc les parents pouvaient toujours bloquer. Comment forcer les jeunes à faire ce truc-là sans les forcer, parce que c'est compliqué de les forcer. Donc le premier dispositif qui a été pensé, qui date du 29 juin 2023, si mes souvenirs sont bons, c'est écrit là, c'est sur le dispositif classe engagée. Ça, c'était un coup de génie, c'était qu'au lieu de rendre les élèves volontaires, c'est que les profs soient volontaires pour rendre leurs élèves volontaires. C'est-à-dire qu'un prof peut inscrire sa ou ses classes de seconde générale et technologique ou de seconde CAP comme classe engagée. Si la classe a le label classe engagée, ça donne 1 000 euros pour l'établissement par classe. L'occasion de vous prendre un peu d'argent parce qu'on est quand même très pauvre dans l'établissement scolaire. Moi je viens du 93, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Les budgets ont été réduits pour l'année dernière de manière hyper brutale. Donc aller taper 1 000 euros à droite, 1 000 euros à gauche, ça permet d'avoir des stylos. Ça permet d'avoir des stylos essentiellement déjà. Donc tu as 1 000 euros par classe. Il y a 1 250 euros pour le prof qui organise ça, le pacte, une part fonctionnelle, donc une indemnité de 1 250 euros pour envoyer les enfants préparer la guerre. Et en échange, la classe de seconde va aller faire le SNU, donc le stage de cohésion de 15 jours, pendant le temps scolaire, et le prof reste chez lui. Donc c'est quand même une opération où on est payé, on a de l'argent pour l'établissement, et en plus, 15 jours de vacances. Il faut être un peu solide pour résister à ce genre de sirène. Si on ajoute à ça le bonus sur Parcoursup, qu'on ne sait pas, hein, parce que essentiellement Parcoursup, la nouveauté de Parcoursup, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc toutes les trafics sont possibles, mais on sait que l'engagement, militaire en tout cas, sera valorisé. Le problème, c'est que ce montage demande la collaboration des enseignants. Enfin, il y a quand même plein d'établissements où s'il y a un collègue qui fait ça, ça va être compliqué pour la machine à café. Et en plus, le conseil d'administration doit voter pour. Il suffit de bloquer, c'est pas très très compliqué. Donc il y a quand même des failles et des possibilités de résister. Donc il y a le nouveau plan de Attal, le ministre de l'Éducation nationale, qui était par ailleurs le responsable du SNU précédemment, c'est une coïncidence probablement, qui a lancé la reconquête du mois de juin. En général, quand il y a reconquête dans le titre, c'est pas bon signe. Hein. Il y a eu les quartiers de reconquête républicaine, le parti reconquête. Même si on dit en espagnol, c'est pas du tout bon signe. Donc la reconquête du mois de juin, c'était essentiellement parce que le bac était en mars, donc les élèves venaient plus au mois de juin. Donc en fait, ils ont créé un trou et maintenant ils essaient de le combler. Attal l'a annoncé il y a quelques semaines ou quelques mois, mais le projet de loi est tombé hier et sera au bulletin officiel probablement jeudi prochain. C'est que tous les élèves de seconde doivent faire 2 semaines de stage en entreprise, obligatoire. Et s'ils ne trouvent pas stage en entreprise, ils doivent faire le SNU. Ce qui rend le SNU pas obligatoire. Mais le stage en entreprise, lui, est obligatoire. Donc c'est une façon de rendre le SNU obligatoire. D'autant que les sages d'entreprise, on sait très bien ce que c'est. Hein. On va chez papa, maman, tonton, tata. Mais quand on n'a pas papa, maman, tonton, tata qui a la capacité d'offrir un stage en entreprise, eh ben on va faire le bidas. Donc ce qui permet de faire un montage qui rend obligatoire pour les pauvres, les fiches de chômeurs, les gens qui n'ont pas de réseau, rend obligatoire le SNU. Ce qui est assez pratique pour le gouvernement, ceux qui vont servir de char à canon sont les bonnes personnes. Le contexte plus général du développement du SNU, parce que malgré tout, il y a une accélération délirante du SNU cette année. Le machin date de 2017, ça a barboté pendant quasiment 5 ans, avec, comme j'ai dit, des fils de bidas qui jouaient à la guerre pendant 2 semaines, c'était très sympa. Il faut voir le contexte général. La loi de progression militaire pour l'exercice 2023-2030 sur 7 ans, est de 413 milliards d'euros. 413 milliards d'euros, je ne sais pas, ça correspond à peu près au PIB de la Belgique. Voilà, 2000 milliards, c'est le PIB de la France, donc à peu près un quart de la France, dédié aux armées, sur 7 ans. Le budget pour 2023, c'est 45 milliards d'euros. L'éducation nationale, c'est 59. D'ici à 2050, il faut que le budget de l'armée, selon les prises de parole, soit entre 50 et 80 milliards d'euros. Entre 50 et 80 milliards d'euros, ça veut dire que le budget de l'armée sera très supérieur à celui de l'éducation nationale. Le seul budget qui a les moyens de lâcher un peu de thunes, qui a de l'argent, en France, c'est l'éducation nationale. On est un énorme corps, on est 1,2 million de fonctionnaires, on s'occupe de plusieurs millions d'enfants. Donc il y a beaucoup d'argent. Donc il fallait bien pas falloir payer ça. Donc on va payer ça avec le budget de l'éducation nationale.
On a constaté, et avec ce qu'on a développé là, c'est que le SNU s'infiltre partout, qu'il est assez séduisant, et parce qu'on ne voit pas forcément que c'est militaire. C'est un élève qui m'a fait la réflexion. Il ne comprenait pas pourquoi je m'opposais, parce qu'il n'a pas vu de militaire au séjour de cohésion. Mais en fait, tout se déploie lentement, et le but, c'est de rendre soit la guerre désirable, soit d'oublier que si on va à l'armée, c'est pour faire la guerre et pour porter des armes.
Eh bien, merci. Donc, bonjour. Donc, voilà la cartographie des liens armée-jeunesse. En faisant le travail sur le SNU et en cherchant les aspects militaires du SNU, puisqu'ils essayent de gommer cet aspect, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que le SNU, loin de là. D'ailleurs, vous voyez la place qu'il occupe. Et qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui unissaient donc l'armée à la jeunesse. Et il nous a semblé important de donner corps à ça et de le montrer. Donc on a choisi cette forme-là. Là où le SNU vise une classe d'âge, comme ça a été dit, les liens armée-jeunesse, ils s'implantent de l'école jusqu'à l'université, à l'intérieur des établissements, mais aussi à l'extérieur, et pour les jeunes hors parcours scolaire. C'est d'ailleurs ce qui est visé par l'armée. Ils veulent les jeunes en décrochage, ils veulent les jeunes qui ont des difficultés, ça les intéresse beaucoup. Un point sur la légende, ce que vous voyez en rose, ce sont des personnes qui ont des fonctions de lobbyiste, on peut dire, c'est-à-dire qu'ils ont des fonctions, par exemple, à l'éducation nationale, mais ils abusent de leurs fonctions parce que, par ailleurs, ils sont officiers de réserve, ils ont des accointances, en tout cas, ils ont à cœur de porter l'esprit de défense. Donc voilà, en orange, ce sont des structures qui ont été créées pour faire du lien armée-jeunesse, typiquement le SNU. Et puis il y a des structures donc en jaune qui sont des structures infiltrées par l'armée mais qui à la base n'ont absolument rien à voir avec l'armée. Et en rouge, ce sont des structures ou des dispositifs qui sont purement militaires et faits par des militaires. Tout ce qui est sur la carte est en lien avec le ministère des armées. Il faut savoir qu'on n'a pas personnifié le ministère des armées. Le ministère des armées, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est en tenue camouflage, hein, on s'est embêté à faire cette peinture voilà, merveilleuse, parce qu'en fait, il y a tout ça donc, qui est en lien avec le ministère des Armées. C'est une carte V1, donc première version, parce que c'est loin d'être exhaustif. Jusqu'à hier, on trouvait encore des liens, des choses, des dispositifs. Ils en ont, mais à foison. Donc l'idée, c'est que d'autres s'emparent de cette carte et qu'on voit comment on peut la transposer, comment on peut la faire vivre et la faire évoluer.
En 1996, lorsque Jacques Chirac annonce la professionnalisation de l'armée, on est nombreux à espérer la fin du service militaire obligatoire, mais ça n'est pas le cas. En fait, la loi de 1997 ne va faire que suspendre ce service militaire obligatoire, et la loi permet explicitement son rétablissement, soit pour des raisons militaires, soit seulement sur des objectifs assignés aux armées. En fait, la loi de 1997, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme les obligations militaires. Elle les transforme sur quelque chose qui va devenir institutionnellement une obligation qui a l'air plus ou moins d'être, on va dire, plus cool en apparence. Le parcours de citoyenneté. Le parcours de citoyenneté comporte trois aspects. Il comporte, d'une part, le recensement obligatoire en mairie, d'autre part, la journée de citoyenneté obligatoire pour tous les jeunes, et enfin, l'enseignement de défense. L'enseignement de défense, ça a l'air comme ça de mêler deux choses qui nous choquent, c'est-à-dire, en gros, l'éducation et l'armée. Je pense qu'il faut prêter une petite attention à la sémantique de cette formule. C'est bien l'enseignement de défense. C'est-à-dire que, formulé comme ça, il s'agit d'un enseignement qui est en soi une activité militaire. Du coup, comment ils vont faire pour vaincre les résistances au lien entre l'armée et la jeunesse? La première idée qui leur vient, elle est simple et brutale, comme l'armée, à savoir, on prend un recteur ou une rectrice d'académie et avec évidemment tous ses subordonnés, ce qui fait du monde, et un général ou une générale des armées, et on leur dit, vous bossez ensemble. Mis comme ça, c'est une version qui risque de susciter trop de réactions. Du coup, c'est là qu'ils font intervenir une nouvelle entité qui va avoir comme effet d'essayer de passer un peu plus discrètement. En fait, ils vont faire intervenir des intellectuels, ce qui est plus présentable, dans un institut, qui est plus présentable aussi, l'IHEDN. L'IHEDN, l'Institut des Hautes Études en Défense Nationale. C'est fait d'universitaires, de sommités intellectuelles, qui ont beaucoup de moyens et qui vont faire des formations et des débats auprès de plein de personnes qui sont civiles, beaucoup plus présentables. Ça passe mieux avec des civils qu'avec des uniformes, mais ça fait quand même passer les idées. Et en fait, cette IHEDN forme plein de gens qui vont donc devenir des auditeurs de l'IHEDN. Et ensuite, ils continuent de structurer. Ils font une association nationale et des associations départementales des auditeurs de l'IHEDN. Et c'est le point clé. Ce point clé, ça permet de former des gens à l'idéologie militaire, tout en étant sous la coupe à la fois d'un recteur d'académie et d'un général des armées. Et ces trois ensemble, recteur, général, association locale de l'IHEDN, forment les trinômes académiques, qui existent depuis longtemps, qui semblent relativement discrets, mais qui pourtant font une action de fond depuis très longtemps dans le but de défendre et de développer les liens armés. Ces actions, essentiellement, c'est de la formation auprès des personnels, de la formation auprès des élèves, pour que tout le monde accepte les idées de l'armée. La loi de 97 va faire passer l'éducation à la défense, c'est-à-dire plein de points sur l'éducation qui s'immisce à l'intérieur du programme. Et puis, on va avoir, par exemple, les classes de défense et sécurité globale, où, pour donner un exemple, un prof de français qui se dit « Mais qu'est-ce que je vais avoir à faire avec ça ?» Ben, il va faire une correspondance épistolaire entre ses élèves de collège ou de lycée et une armée en action. Et autre chose de ce genre-là, les cadets de la défense, qui vont, par exemple, eux, être des partenariats entre plusieurs collèges et lycées d'un même secteur géographique, et qui vont amener des élèves de ces établissements à aller directement dans des unités militaires en manipulant des armes.
Moi, je vais vous parler de ce qu'on a appelé mieux connaître la jeunesse. C'est un peu l'obsession de l'armée. Mieux connaître la jeunesse, ça permet de mieux l'infiltrer et d'être au diapason pour aller au bon endroit, au bon moment. Donc ça, c'est une quête qu'ils ont depuis très longtemps. Ils ont créé ce qu'on appelle la commission armée jeunesse. Ils vont s'inspirer de structures qui connaissent la jeunesse, puisque la commission armée jeunesse est composée de 101 structures. Elle existe depuis 1955. Il y a 38 associations et mouvements de jeunesse, 8 mouvements étudiants, 11 syndicats, donc ça laisse assez perplexe. Les noms sont là, on a la liste. C'est assez intéressant et assez édifiant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des groupes de travail tous les mois qui se réunissent. C'est le ministère de l'Armée qui pilote tout ça, puisque la commission armée jeunesse dépend complètement du ministère des Armées. Et donc, ces gens-là, dont des associations très connues, même dans l'éducation populaire, vont travailler sur des groupes de travail, inspirer l'armée pour leur dire « bah voilà, voilà ce qu'aiment bien les jeunes, voilà ce qu'on pourrait faire ». Et ils font des préconisations, et en échange, l'armée leur permet d'aller visiter des sites militaires, de faire des conférences sur l'armée, etc. Donc ça, c'est chaque mois. Et par exemple, il y a un groupe de travail a rendu un rapport là en 2022-2023 qui est « Quelle est la perception de l'engagement militaire chez les jeunes éloignés des enjeux de la défense ? Comment intéresser ces jeunes au sujet de la défense, voire à un engagement dans la défense ?» Et donc, de là, ils ont eu la bonne idée de dire « Bah tiens, il y a le SNU, il y a les réseaux sociaux, il y a les commémorations. » Donc le 11 novembre, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a énormément de jeunes qui ont participé. Ce n'est pas un hasard. C'est un travail de l'armée qui s'est immiscé dans plein de choses pour que ces jeunes fassent ces visites mémorielles et ces commémorations. Pour mieux connaître les jeunes, il faut savoir que le général Menaouin, qui est le premier rapporteur du SNU, avait également lancé une enquête via la JDC, où 45 000 jeunes ont répondu, et via les lycées, à l'intérieur des lycées, le général Menaouin a fait une enquête aussi pour les connaître. Donc 30 000 jeunes ont répondu à cette enquête. Là, je vais vous parler d'un autre exemple. C'est ce qu'on appelle l'ECPAD, Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense. Ils ont 15 millions de photos, ils ont des centaines de films, ils ont un fonds d'archives assez extraordinaire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une enseignante détachée de l'éducation nationale qui pompe des projets pédagogiques à l'intérieur de ce truc qui est purement militaire. Cette ECPAD, donc, a par exemple, dernièrement, il y a un prof d'histoire qui s'est dit « moi j'habite dans une ville, tout ça, il y a eu la guerre, je vais faire un truc ». Donc il trouve des photos super sur un militaire, tout ça, bon bref. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a pris dans ce fond-là. Et qu'est-ce qu'a fait le CPAD derrière? Ils l'ont invité à des séminaires de l'armée, ils ont fait tout un tas de choses. Et un jour, il s'est retrouvé à un séminaire, il a bien compris qu'il y avait beaucoup d'uniformes pour faire ce projet. Et là, il s'est rendu compte, et d'ailleurs il le dit lui-même, qu'il était pris dans un truc qu'il n'avait même pas imaginé. Et donc il y a beaucoup d'enseignants qui risquent de se retrouver dans des projets comme ça, qui sont en fait faits par des militaires pour toujours infuser l'esprit de défense et travailler là-dessus. Donc ils sont très forts pour ça. Un autre exemple, c'est le prix éco-délégué. Donc il faut savoir que l'écologie, ils ont compris que c'était un grand intérêt pour la jeunesse. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Le prix éco-délégué, comme ça mange pas de pain, on voit pas le rapport avec les militaires. Le prix éco-délégué, il s'avère que Coralie Noël, elle est haute fonctionnaire à l'éducation nationale, à l'écologie et à la transition. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, mais moi, en fait, j'adore l'armée. Et d'ailleurs, j'ai fait la formation à l'IHEDN et j'adore l'esprit de défense. Oh, je fais de l'écologie et de la transition, ça intéresse les jeunes. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait dans son prix éco-délégué? Elle a rajouté une petite phrase dans les règlements de l'année dernière. Elle a dit, tous les établissements relevant de la défense peuvent candidater aussi sur ce prix. Et donc, c'est une façon, en abusant de sa place, d'infuser l'esprit de défense là où elle peut. Et ça, c'est pas visible. C'est-à-dire que c'est des choses, si on va pas scruter dans le règlement, on ne le voit pas. L'UNSS, l'Union Nationale du Sport Scolaire, donc c'est des professeurs d'EPS, organise notamment le cross départemental, qui a lieu là d'ailleurs dans pas longtemps. Plusieurs départements font des alliances avec des bases militaires. Donc ça se passe sur des bases militaires, c'est encadré par moment par des militaires. Et c'est souvent aussi à l'invitation de colonels et de généraux. Donc ça s'est fait dans plusieurs départements, donc il faut être attentif à ça. Et une dernière chose qui est peu connue, c'est la part collective du pass culture. Le pass culture, on connaît la part individuelle, donc les jeunes qui ont une somme et tout. Il y a la part collective. La part collective, c'est quoi ? C'est chaque établissement a une somme allouée pour, par jeune. Donc c'est en 20 à 30 euros selon le niveau de classe. Il s'avère que la part collective a été étendue au 6e et 5e pour cette année. L'armée compte sur cette part collective pour organiser des visites mémorielles et des choses sur des bases militaires. Elle l'a déjà fait. Elle sait que ça existe. Et en fait, il faut savoir que la DGESCO sait très bien aussi que l'armée se sert de ce dispositif pour payer des sorties et des visites. Donc voilà, et ça, c'est typiquement des choses qui ne sont pas prévues pour. Mais il faut savoir que c'est accordé pas par imposition des mains. C'est qu'il y a un article dans la part collective du pass culture qui dit que les lieux mémoriels et les lieux de défense sont éligibles à la part collective du pass culture. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font et que c'est des choses détournées parce qu'il y a ces personnes qui sont souvent des officiers de réserve par ailleurs qui en profitent pour mettre là où ils peuvent de la défense et du militaire.
Donc, pour les enseignants et enseignantes présents dans la salle, il faut absolument inscrire les classes à des pièces de théâtre qui n'ont rien à voir avec l'armée pour vider la part collective du pass culture et ne plus financer les événements mémoriels. Petit conseil. Moi, je fais un point sur la formation des enseignantes. L'idée, c'est d'infuser sur le long terme. Et ce qui a été constaté par des spécialistes d'éducation, c'est que le public enseignant est particulièrement rétif à l'introduction de l'idée de défense dans les enseignements et dans l'école. Donc il faut prendre le temps et il faut infuser par plusieurs biais. Alors je vais pas m'attarder, mais présenter quand même Sébastien Jakubowski, qui est le recteur de l'Académie de Lille et qui est un peu une star de conférence pour présenter les façons d'intégrer la défense dans nos enseignements. Je suis enseignante. Et le DGESCO Édouard Geffray, donc DGESCO c'est le bras droit du ministre, le directeur général de l'enseignement scolaire, il a intégré dans le schéma directeur de la formation des enseignants la notion d'éducation à la défense. Donc dans ce schéma directeur, il y a plusieurs en-têtes importantes, comme les valeurs de la République, la laïcité bien sûr, liberté des droits fondamentaux et égalité des droits, et s'ajoute à cela, au même niveau, l'éducation à la défense. Dans l'INSPE, hein, l'Institut National des Formations des Professeurs, où œuvre particulièrement donc le Sébastien Jakubowski, il est dit que la formation à l'enseignement de la défense doit être intégrée dès la formation initiale. Et on peut venir à EducaDef, avec un joli petit arrobase. C'est un site numérique où sont collectées toute une quantité de ressources très bien faites, très accessibles. Donc c'est à la fois pour les enseignants qui vont trouver du matériel pour parler de la défense, mais c'est aussi pour le grand public. Et c'est accessible, c'est joli, c'est sympa, tout est sympa, donc ça donne envie de faire.
Ce soir on engage au SNU, aujourd'hui mon maître c'est l'État. Le papier est blanc et l'uniforme est bleu et je vois rouge, mais je n'ai pas le choix. Ce soir on m'engage au SNU, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple jeune qu'en peut plus qu'encore une fois, on ne laisse pas le choix. Je vous le dis, je vous le dis. Je vous le dis, qu'il soit maudit ce SNU. Maudit drapeau, maudite Marseillaise apparemment. On veut que je me taise. J'aimerais tant comprendre l'histoire de cette loi, des gens qui ont porté ça. Décider pour moi, faut croire que ça les jette pas. Pourtant jeune ils l'ont été avant moi. Je voudrais pouvoir leur dire que la jeunesse des valeurs, elle en a. Elle se bouge, elle gueule, on va pas se mentir. La vérité, c'est que vous l'écoutez pas.
Ce soir, dans Les Amis d'Orwell, on revient donc sur le service national universel avec des interventions captées le 18 novembre à Paris lors d'une réunion publique organisée par le
collectif non au SNU de la région parisienne. À présent, pour finir, quatre derniers intervenants et intervenantes. D'abord, une lycéenne qui nous parle de ce qu'elle a vu, entendu et subi dans toute cette propagande. Et ensuite, le témoignage de membres d'associations d'éducation populaire sur lesquelles compte absolument le gouvernement pour imposer le SNU sur le terrain. Il y aura à la fin, vous l'entendrez, le témoignage d'un encadrant, tuteur de maisonnée, comme on l'appelle dans ces nouvelles casernes.
Au profit des gens qui gouvernent l'État et qui veulent les mettre au pas.
Donc, bonjour. Alors on est très content de pouvoir être ici pour discuter justement de notre vision qu'on a du SNU. Tout ce processus qui est vraiment partout, soit dans les discours des proviseurs, dans les mots qu'on va nous faire passer. Il y a tellement de mots qui sont utilisés pour parler du SNU, qui sont des mots qui sont connotés très positivement. Que c'est vrai que c'est extrêmement compliqué en fait de déconstruire cette vision du SNU quand on nous parle d'engagement, qu'on va parler de plein de choses, d'égalité, d'écologie. Tout le monde s'en est rendu compte ici. Enfin, le SNU, c'est pas de l'engagement, c'est plutôt de l'embrigadement. Et en fait, vouloir apprendre aux élèves à obéir aux ordres, à savoir être bien discipliné. C'est quelque chose que veut transmettre le SNU aux jeunes, mais c'est aussi quelque chose qu'on voit même dans ce qui est de plus en plus voulu par l'éducation nationale dans la manière dont on va être traité, que ce soit dans les programmes, dans les enseignements. Et en fait, dans l'institution scolaire, ce qui va vraiment être prôné, c'est le respect de l'ordre, le respect de l'autorité. Attention aux élèves qui voudraient sortir du rang, qui seraient indisciplinés, qui voudraient remettre en question les réformes qui passent d'année en année, qui précarisent toujours de plus en plus nos filières, nos conditions d'études, et même tous ceux qui voudraient en fait remettre en question de manière générale le fonctionnement de l'institution scolaire. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui est, de manière générale, très 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 mis en avant par l'institution, qui veut vraiment, par tous les moyens, faire respecter aux élèves l'ordre, la discipline. Et donc c'est ça aussi qu'on a vu l'année dernière, au moment de la mobilisation contre la réforme des retraites, mais aussi contre la réforme du lycée professionnel, où en fait les lycéennes et les lycéens qui s'engageaient étaient en permanence intimidés, il y avait des discours très paternalistes, et puis aussi bien évidemment matraqués, fichés par les établissements. Et c'est vrai que c'est très ironique de voir que de l'autre côté ils utilisent et ils récupèrent toute une sémantique très positive de l'engagement pour mettre en place leur séjour SNU, donc embrigadement, respect de l'armée, de l'autorité, de ce que même disent les gens qui les ont vécus. C'est pas vraiment apprendre à connaître l'autre, c'est plutôt faire des punitions collectives avec les autres, c'est plutôt... respecter l'autorité, comprendre à quel point l'armée est extrêmement importante. Attention, surtout, beaucoup chanter la Marseillaise et avoir un respect très très profond pour le drapeau français. Je ne sais pas si c'est forcément cohérent avec ce qui était à la base prôné dans les mots qu'ils utilisaient à la base. Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler vraiment d'engagement quand c'est utiliser les élèves pour faire passer leur propagande militaire. La précarité qu'eux-mêmes mettent en place dans leur politique libérale, ils la récupèrent pour faire du chantage aux jeunes et les forcer à faire le SNU. Donc, par exemple, ils vont proposer aux personnes qui vont faire le SNU d'avoir des trains gratuits pendant un mois. C'est vrai que bon, casser la filière professionnelle, nous mettre en compétition, pas nous mettre de place dans le supérieur, enfin avoir des conditions d'études très très compliquées, c'est pas du tout ça qu'il faut pallier. Et justement, on va plutôt utiliser le fait que les lycéennes et les lycéens sont précaires et vivent dans des conditions difficiles pour leur dire, bah, attendez, on va vous donner une petite miette de gâteau si vous acceptez de faire 2 semaines où vous allez apprendre à respecter l'ordre, la discipline. Il n'y a pas assez de place dans le supérieur, mais potentiellement, si tu fais ton SNU, on ne sait pas, peut-être que tu auras un petit peu plus de chance d'avoir une place dans la filière que tu veux. C'est vraiment, tout est dans la surface, tout dans le superficiel. C'est sur une journée défense, citoyenneté, enfin je ne sais plus trop le terme, mais on me racontait en fait qu'il y avait c'était les militaires qui faisaient la formation, et ils étaient un peu en train de découvrir le PowerPoint en même temps en fait que les jeunes qui étaient là. Et je crois qu'à un moment sur le PowerPoint, il y avait des trucs sur égalité homme-femme et tout, et ils ont vraiment dû faire genre de blagues. Oui bon, enfin ça, on vous le montre, mais bon, je veux dire, c'est parce qu'on doit le montrer, hein. C'est pas trop comme ça à l'armée. Et on peut se dire, c'est un militaire. Et puis l'autre, il a rigolé, il a dit, bon, c'est vrai que... bon, voilà, c'est pas trop nous. Mais donc, on voit bien que voilà, c'était pas forcément eux, ce pourquoi ils étaient là. Mais en tout cas, c'est vrai que, de manière générale, quand on voit la manière dont ils nous empêchent, nous, dès qu'on va organiser une AG, un blocus, qu'on va essayer, en fait, de montrer notre opposition à l'institution scolaire ou aux réformes libérales qu'ils essayent de passer, voilà, ils vont nous ficher, mettre des conseils de discipline plusieurs mois après pour les élèves qui se sont engagés, qui se sont mobilisés. Mais voilà, ils vont réutiliser l'engagement pour dire non, on veut absolument que les élèves s'engagent. On va y mettre aussi en place plein de petits conseils lycéens pour dire que les élèves sont vraiment acteurs des décisions qui les concernent. Alors que vraiment, dans ces conseils-là, il y a 3 lycéennes-lycéens qui vont donner une petite idée. Et de l'autre côté, il y a l'institution qui va faire « Ah d'accord, c'est vraiment super. Bah, c'est pas ce qu'on va faire, mais vraiment merci d'être là. Merci d'être là pour qu'on puisse légitimer le fait qu'on vous demande en fait jamais votre avis. » Je suis pas sûre qu'on ait trop envie d'être des jeunes lycéens très disciplinés qui respectent l'ordre et qui jamais se mettent en opposition avec ce qu'ils entendent.
Bonjour à toutes et à tous. Donc bon, on va vous parler du SNU dans nos secteurs respectifs. Pour moi, ça sera l'associatif. Alors tout d'abord, il faut bien réexpliquer que les associations sont censées être indépendantes, mais comme elles vivent majoritairement grâce à des subventions publiques, elles ne le sont pas forcément. Et ce qu'a fait Macron depuis sa première élection, c'est de diminuer les subventions aux associations et de passer de subventions de fonctionnement à des subventions projet, appel à projet annuel. Donc ça précarise énormément les associations, et les associations qui osent dire publiquement qu'elles ne sont pas d'accord avec ce que fait le gouvernement savent qu'elles s'exposent à la perte ou à la diminution de leurs subventions. En parallèle de la baisse des fonds pour les subventions aux associations, on voit que l'État était capable de débloquer 3 milliards d'euros pour le SNU. Les associations d'éducation populaire, au lieu de s'organiser collectivement et de dire non à la mise en place du SNU, il y a eu du dumping entre les assos pour devenir prestataire de l'État et proposer soit l'allocation de leurs infrastructures, soit l'encadrement de sessions de SNU, soit la mise à disposition d'animateurs. Et il y a aussi la promotion du dispositif et un peu le changement de paradigme avec les associations d'éducation populaire qui commencent à faire de la pub pour l'État, pour le ministère de la Défense. Moi, par exemple, je travaille à la Ligue de l'Enseignement et du coup, j'ai l'honneur d'être dans une asso qui est et à la Commission Armée Jeunesse et qui fait la promotion en interne de l'IHEDN qui ont été présentés tout à l'heure pour former les cadres de direction. Et donc petit à petit, on voit que dans les projets que nos collègues mettent en place dans les territoires, il y a des projets sur les commémorations, l'armée, et c'est des projets avec le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Défense, avec Dassault, avec Safran.
ça s'étend à plein d'autres associations et ça ne pose plus trop de questions. Voilà, ça ne choque plus, ça ne scandalise plus. Maintenant, je vais passer la parole à Jean-Baptiste, qui a été encadrant pour le SNU et qui va témoigner du coup des conditions de travail.
Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Pendant deux semaines, on m'a vouvoyé, on m'a appelé monsieur parce que du coup, j'ai été encadrant d'un service national universel. Et le point que j'aimerais qu'on retienne, c'est que structurellement, le SNU est facilitateur de violence à l'égard des jeunes qui y participent, notamment à cause des conditions de travail des encadrants et des encadrantes. J'étais donc tuteur de maisonnée, ça s'appelle comme ça. On a une douzaine de jeunes de 16 ans sous notre coupe. Et pendant 12 jours, avec un séjour de 200 personnes, oui, le rythme de vie est extrêmement fatigant et cette fatigue est facilitatrice de violence. Notamment, c'est des journées de 6h30 à 22h30 pour les jeunes. Mais quand on est animateur ou animatrice, ça veut dire qu'après, on a des réunions d'équipe. Et ça veut dire que si on doit lever les jeunes, par exemple, à 7h, on doit se lever un quart d'heure, une demi-heure avant. Et donc, oui, le rythme de vie épuisant des services nationaux universels facilite les violences. Notamment, on a 50% des jeunes qui estiment que l'emploi du temps est trop chargé. On en a 51% qui estiment qu'ils n'ont pas assez de pause au sein du SNU. Et donc, jeunes fatigués plus encadrants fatigués, oui, ça facilite les violences. Et c'est de là qu'on peut voir qu'à Strasbourg, il y a des punitions collectives, que dans le Nord, ils font faire des pompes, ou que partout ailleurs, il y a des violences sur les jeunes, notamment à cause de cette fatigue. En plus d'un cadre fatigant, on a des encadrants et des encadrantes qui sont pas ou peu formés. C'est-à-dire, en colonie de vacances, on peut avoir jusqu'à 20% d'encadrants non formés. Eh bien, le cadre légal du SNU est modifié, ce qui fait qu'au SNU, on peut avoir jusqu'à 40% d'encadrants et d'encadrantes pas formés. Le tout fait un cocktail un peu explosif qui facilite les violences sur les jeunes. En plus de ça, on a des collègues militaires à nos côtés dont ce n'est pas le métier d'encadrer des séjours de 12 jours. Et tout cela fait un cocktail explosif. Et ce que vraiment je voudrais que vous reteniez, c'est que le tout est structurellement facilitateur de violences aux mineurs. On peut le voir de l'intérieur, on peut le voir avec les chiffres. Et donc pour ça, jusqu'au bout, on se battra contre le SNU.
Je travaille au sein des services de l'État qui mettent en place le SNU. Donc c'est la charge du ministère de la Jeunesse et des Sports qui a été aspirée il y a peu par le ministère de l'Éducation nationale. Et pour compléter ce qui a été dit, moi je pensais à deux points. C'est le premier point, ça sera le fait que le SNU devienne en fait l'alpha et l'oméga des politiques jeunesse en France. Et le deuxième point, c'est la culture du secret qui est organisée, et notamment jusque dans les sphères de l'État. Le SNU, en plus d'être de l'argent monumental, c'est aussi en fait des objectifs monumentaux qui pèsent en fait à tous les niveaux, et notamment sur les équipes et les agents et fonctionnaires qui doivent mettre en place ce dispositif. On est sur un engagement qui est obligatoire. Donc c'est totalement contraire à ce que doit être l'engagement, qui est un engagement libre normalement. Et donc ça a un impact sur tout ce que sont les politiques de jeunesse et tous les autres dispositifs qui existent. Concrètement, l'État dit à des assos, bah, si vous ne mettez pas en place le SNU, bah, les subventions elles vont sauter ou alors elles vont diminuer. Ça c'est concret et c'est régulier. Les agents, en fait, la pression elle est telle que... Normalement, à la base, il y avait trois personnes qui travaillaient sur le SNU et après, on demande à tout le monde de travailler sur le SNU. Donc, ça pressurise tout le monde. On a des agents qui sont en souffrance, on a des agents qui sont en arrêt maladie, etc., etc. Donc, on a en fait un SNU qui prend toute la place, et au niveau de l'argent, et au niveau des équipes, et au niveau de l'impact que ça a avec les assos, avec les partenaires. Et on a des personnels et des fonctionnaires qui n'ont plus le temps de développer leur autre mission, et notamment des choses qui sont très importantes et de ce qu'on appelle les missions régaliennes, notamment l'accompagnement, le suivi et l'évaluation des accueils collectifs de mineurs. Donc tout ce qui est centre de loisirs, colo, c'est fait au détriment en fait de la sécurité de beaucoup de personnes et notamment de mineurs, parce qu'on a le spectre du SNU qui prend toute la place. Voilà, et l'autre point dont je voulais vous parler, c'est cette culture du secret. Parce que concrètement, on demande à toutes les personnes qui travaillent sur le SNU, et notamment les fonctionnaires et les fonctionnaires d'État qui normalement doivent être neutres, on leur demande de fermer leur gueule. Excusez-moi d'être vulgaire, mais en fait on leur demande de se censurer et de ne pas remonter les dysfonctionnements, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements, ça a été dit, il y a beaucoup de violences, et on sait que notamment il y a eu des violences sexistes et sexuelles, il y a eu des propos discriminants, notamment racistes, homophobes, etc., etc. Et en fait, on empêche la remontée de ces informations. On demande aux équipes, notamment en charge du SNU, de ne pas parler à la presse. Et on demande à tous les retours d'expérience, en fait, quand il y a des choses qui sont un peu trop violentes, qui sont écrites, bah, elles sont barrées, elles sont supprimées dans les infos qui remontent. Donc c'est très contradictoire. Et en plus, le SNU, il faut savoir que c'est des séjours qui sont organisés par l'État et en même temps contrôlés par l'État. Donc il y a un problème. C'est pas comme tous les autres séjours qui existent. Donc vous voyez bien que la remontée des problèmes est déjà contradictoire. Dans les hautes sphères de l'État, ils sont au courant, puisque ça nous arrive d'ailleurs rencontrer les ministres et notamment la secrétaire d'État. On lui a fait l'état notamment du fait qu'on était muselés, censurés à tous les niveaux, au niveau associatif, au niveau des acteurs et des professionnels, mais au niveau des fonctionnaires. Et en face, la réponse, elle est nulle, quoi. Elle est un peu montée sur ses grands chevaux, elle nous a dit « Ah bon ?» Enfin, elle a fait son numéro. C'était nul, et elle nous a dit « Ah, mais moi, je veux avoir les noms des gens, etc. » Et quand on lui dit « Non, mais on peut pas le faire, parce que vous demandez à vos fonctionnaires de ne pas parler », et après, ils savent, mais ils s'en foutent. Voilà. Donc tout est organisé pour que le SNU puisse continuer à être un système totalement autoritaire et violent et délétère.
Et du coup, pour conclure, nous, on se bat dans nos collectifs de travail, en plus de ce collectif, mais aussi beaucoup via nos syndicats. C'est le fait d'avoir des mandats syndicaux qui nous permettent de pouvoir s'exprimer librement dans nos assos, dans les ministères, pour les collègues profs, dans leurs écoles. Donc déjà, merci là à tous les camarades du MNL, de la CNT, de la CGT et pour nous de Solidaires. Et c'est très important pour nous que vous, en tant que parents d'élèves, en tant que citoyens, en tant qu'adhérents d'associations ou membres de conseils d'administration d'associations, vous fassiez aussi passer le message que vous êtes contre le SNU. Parce que ça nous permet, nous, d'avoir plus de crédibilité quand on essaye de dire à nos associations employeuses qu'on n'est pas les seuls à avoir cette parole-là, que peut-être que leurs adhérents aussi. Donc c'est important que vous puissiez aussi transmettre cette parole-là. Merci.
Voilà pour ces courtes nouvelles du front. Cette réunion a donc eu lieu le 18 novembre à la Bourse de Travail de Paris. Le collectif contre le SNU de la région parisienne organise des points d'info et des réunions régulièrement. Contactez-le pour en savoir plus. Leur mail, c'est collectif non SNU trait d'union rp@mailo.com, mailo.com. Pour info, jusqu'à dimanche prochain, là, 3 décembre, à la librairie Publico, si vous ne l'avez pas encore vu, il y a une expo d'affiches antimilitaristes organisée et rassemblée par l'Union Pacifiste. C'est donc jusqu'au dimanche 3 décembre à Publico. Merci à l'équipe de l'Actu des Luttes. Merci à Henrik pour le coup de main. Nos archives sont toujours sur sourier.info. Bonne fin de soirée sur Radio Libertaire.
La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police.
Sono le 22:30.
Allora,
Radio Libertaire de nouveau à l'antenne en direct ce soir vendredi
1er décembre.
1er décembre, merci Serge. Donc nous sommes de nouveau en direct sur cette antenne après de multiples enregistrements d'émissions enregistrées. Hello à tous, bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Nous sommes ensemble donc ce soir comme d'habitude le vendredi soir. C'est The Post Non Radio Show qui commence. Donc Serge est là.
Bonsoir.
Bonsoir Serge.
Bonsoir.
Guy est là aussi, ouais, et Yves, ouais, aussi.
Bonsoir.
Bonsoir. Voilà.
Voilà, je vous entends tous. Bienvenue donc.
Welcome.
Ouais. Ouais.
Oui, willkommen.
C'est ça,
et welcome.
Donc, bonsoir à tous. Donc, nous, après cette émission bien chiante sur, que nous avons écoutée dans son entièreté, merci Jérôme des Amis d'Orwell.
Non, c'est intéressant.
Oh, c'est, oui. Enfin, je pensais pas que c'était comme ça. Enfin, en
ça
même
donne
temps,
une vision que j'imaginais pas, moi.
Moi non plus, ça m'étonne pas des. Quelque part, ça m'étonne pas des militaires, mais alors j'imaginais pas que ça devait être aussi pénible. Faut qu'ils soient cool, quoi.
Aussi encadré.
Mais en même temps, t'apprendre à aller à la guerre et être cool, c'est un peu antinomique, hein, c'est, voilà.
Bah, faut une fleur, pas, déjà, pour la mettre au bout du fusil. Hein.
Ouais,
en ce moment, c'est
d'accord. Ok, d'accord. On commence l'émission. On va pas disserter sur ce qu'on vient d'écouter. C'est pas notre job. Si je commençais par les annonces de Publico.
Ouais.
Est-ce que tu les as faites, cher Guy, dans émission?
Oui.
Bon, alors je rappelle vite fait que, que dimanche 3 décembre à 16h, Céline Fauché, personnage de la chanson québécoise, conférence en chanson.
Voilà.
Ouais. Mardi 5, comme l'a dit Jérôme, précédemment, du mardi 5 au décembre, au 30 décembre, exposition dans les 6. Ah non! Lui, il a parlé d'un truc antimilitariste. Ah, je me souviens déjà plus. Du mardi 5 décembre au 30 décembre, exposition dans les sillons de Gaston Couté.
Gaston Couté, voilà, oui.
Exposition des planches originales de la BD de Jean-Pierre Joblin.
Voilà, le dessinateur, oui.
Voilà, c'est du dessin.
D'accord.
C'est de la bande dessinée.
Et le dimanche, il refait autre chose, oui.
Non, pas du tout.
Le dimanche, il...
Non, c'est le jeudi.
Ah, c'est le jeudi. Ah oui, c'est le jeudi qui va...
Non, on passe au jeudi 7 décembre.
Oui, voilà.
19h, passe ton bac d'abord, un film de 1978. C'est pour la comparaison entre il y a longtemps et maintenant, projection, discussion. Puis samedi 9 à 16h, présentation, lecture de poèmes limitants. De poèmes militants, c'est ce que j'ai dit.
Oui, oui.
Non, tu as dit autre chose, mais pas militant.
Limitant.
Limitant ou militant?
J'ai dit limitant.
Tu as dit limitant.
Oui. Ma langue a fourché. Feuille volante de Monica Jornet.
Jornet, voilà, feuille volante.
Aux éditions libertaires. Elle écrit beaucoup, cette dame.
Oui.
Et puis, enfin, dimanche 10 décembre, 13h.
Alors, 13h. C'est les signatures
dédicaces de l'album dédicaces. BD de Jean-Pierre Joblin dans les sillons de Gaston Couté.
Voilà, oui.
Et puis ensuite, à 16h,
projection.
Il y aura une projection commentée et chantée par Bruno Daraki, oui. Accompagné par Dagat Bejerano Calderon et Antonin Millot.
Voilà, oui.
Est-ce que j'ai bien fait?
Oui.
Voilà,
Oui, Bruno Daraki il sera avec une petite équipe, oui.
Bon, ben ça a l'air sympa, voilà. Tout ça.
Oui.
Ça fait vivre l'anarchie et le mouvement libertaire.
Voilà.
Donc, chers amis, on va pas tout de suite envoyer une musique.
Non.
On va vous demander si vous avez, pour la revue de presse de la semaine, quelque chose à nous balancer.
On a toujours
à nous balancer.
On a toujours quelque chose. Oui.
Voilà. Yves, peut-être.
Oui, mais je vais commencer par un truc que je trouve formidable.
Voilà, c'est ce que j'attendais. Tu sais, j'attendais, tu vois.
Ça va pas durer du tout.
Je lançais le truc, tu sais.
C'est à Notre-Dame, il y a eu des registres qui ont été tenus depuis que je retrouve dans l'article. Depuis l'article. La période 1400 et quelques, attendez, 1326.
Ah voilà, oui.
Les 26 premiers volumes, 14 600 pages, courent de 1326 à 1504. Alors,
c'est formidable, ça.
C'est des spécialistes qui...
Moi, je trouve ça formidable, l'histoire.
Qui s'occupent d'abord de la restauration, et puis ensuite, ils ont scanné, et ils utilisent un logiciel d'intelligence artificielle pour essayer de décrypter, en anglais c'est pas prononçable, mais en français c'est décryptage de textes manuscrits. Le problème étant que il faut les adapter à ces textes, parce que c'est écrit à la main évidemment, et que l'écriture change au fil du temps selon les chanoines et les époques. Et donc il raconte dans cet article du Monde et de Laurent Carpentier et du dimanche 26, lundi 27 novembre, il raconte que au début, on sent que les notes sont prises pendant la réunion, qu'ensuite les comptes rendus sont clairement recopiés au propre, plus réguliers, sans ratures. Bref, ils ont réussi donc à transcrire ces textes manuscrits en texte en caractère actuel, quoi, latin, enfin d'imprimerie qui sont lisibles. Il a fallu s'y reprendre à 8 fois avec une quinzaine d'historiens pour vérifier les résultats obtenus sur différents extraits afin de corriger le tir. Et obtenir un algorithme par l'intelligence artificielle donc suffisamment fiable, et donc ils ont un résultat qui est 5 millions de mots dans lesquels on peut faire de la fouille structurée, c'est-à-dire on peut suivre des personnes, des fonctions, on peut aller chercher de façon précise sur un mot et un thème. Il faut comprendre qu'au Moyen-Âge la culture écrite se substitue très progressivement à une culture orale, et que, rare pour l'époque, ce sont des pages qui sont rares pour l'époque, et en 1396, on voit comment les chanoines organisent la refonte d'une grosse cloche, par exemple, qui est tombée sans faire de victimes, mais en occasionnant de gros dégâts. Après, il faut la faire passer dans les rues jusqu'à la cathédrale, etc., raconte Julie Claustre, cité par l'article. Elle explique également qu'il faut jouer avec la machine parce que en utilisant cet algorithme donc de décryptage de textes manuscrits, il arrive que les T et les C du latin en écriture gothique soient confondus. Et donc il faut faire des recherches en tenant compte de ces confusions possibles. Par exemple, elle prend l'exemple de poisson. Piscari, et il faut écrire, pour être sûr d'obtenir tout, il faut écrire également une recherche sur Pistari avec un T à la place du C. Et de même, dans les abréviations, le nominatif peut passer pour un accusatif. Donc, il y a un certain nombre de stratégies du genre il y a un certain nombre de trucs, quoi, pour avoir tapé AQU pour O, pour à quoi, donc elle met un point après, une étoile, histoire d'avoir toutes les occurrences qu'elle peut retrouver. Alors, une fois qu'elle a l'occurrence, elle va à la page donnée en se translatant sur la bibliothèque virtuelle du site des archives nationales où toutes les pages numérisées sont consultables. Donc, ils ont mis ce projet en open source. Ils ont eu une discussion entre eux pour, hormis l'obligation de citation, ils ont décidé de ne mettre aucun verrou, et ils disent de toute façon, quand il y a des verrous, ils finissent par sauter. Donc un article intéressant de Laurent Carpentier.
Puis après, ils se rendent compte que quand les moines sont un peu plus tranquilles dans d'autres moments de l'écriture des textes, bah, ils sont passés à la cantine, ils ont un peu bu... l'écriture est un peu plus molle, plus...
Oh bah, ils disent ce qu'on découvre, c'est que Notre-Dame est un pôle magnétique qui réunit les têtes pensantes de la théologie, je cite l'article, du droit et de la science. Ce qu'on découvre, c'est l'emprise du monde séculier, une interpénétration des modes laïques et ecclésiastiques. En 1452-53, on voit que tous les dimanches, les artisans boulangers se réunissent autour de deux cuves baptismales disposées l'une à gauche et l'autre à droite de la cathédrale. C'est leur lieu. On peut imaginer qu'elles leur servent, comme on a pu l'observer ailleurs, de cuves pour mesurer le grain. C'est pas précisé. Toujours est-il qu'un jour, le chapitre décide que ça suffit. Bon, voilà. Les historiens actuels ne sont pas les premiers à travailler sur le corpus. Il y a eu des chanoines des siècles suivants. On voit une annotation où ils ont cherché la trace d'une jurisprudence. Le travail le plus notable, disent-ils, jamais effectué jusqu'ici sur ces registres, c'est le cartulaire de Notre-Dame de Paris en 4 volumes qui remonte à l'un des premiers directeurs de l'École nationale des chartes, Benjamin Guérard, en 1850. L'époque est gothique, Victor Hugo pleure une cathédrale en décrépitude et Viollet-le-Duc est appelé à son chevet. Et il ajoute, serait-ce quand les édifices s'écroulent qu'on se souvient du rôle des historiens. Donc c'est un corpus absolument énorme. J'ai cité tout à l'heure le nombre de volumes, c'est 26 premiers volumes, 14 600 pages. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls, hein, ce sont les premiers. Bon voilà, ça m'a semblé une application de l'intelligence artificielle, simplement donc pour décrypter des textes qui sont écrits à la main, en latin, avec des styles d'écriture qui varient avec les chanoines qui écrivent, donc très difficile à lire pour nous, et que le logiciel arrive à transformer en caractère d'imprimerie actuel, avec bien sûr des petites erreurs. Ils disent que le taux d'erreur est de l'ordre, le taux d'exactitude plutôt, et varie de 88% à 94% suivant les registres. Voilà. C'est le côté formidable de l'intelligence artificielle, c'est le temps que ça nous fait gagner, quoi. Pour d'études. Ensuite, il y a d'autres problèmes avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si j'ai le temps ou pas.
Si, vas-y.
Ben, on a eu un peu de mal à comprendre pourquoi M. Sam Altman, qui était de la direction de l'OpenAI, s'est retrouvé un jour viré et le lendemain repris, après avoir intégré...
Ah oui, j'ai entendu ça, oui.
Après avoir emmené Microsoft dans son sillage, et donc moi je comprenais, enfin ça m'a surpris, j'ai rien compris du tout, et j'ai trouvé un article dans Le Monde du 28 novembre, mardi, écrit par Stéphane Lauer, qui s'appelle, le titre est OpenAI, profit 1, éthique 0. Et il dit que l'IA générative est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux mains seules du capital. Alors que s'est-il passé ? Il y a deux camps qui s'opposaient au sein de l'OpenAI. Celui qui tentait de maintenir des garde-fous au développement d'une technologie appelée à bouleverser la marche du monde, quitte à rater des opportunités commerciales. Et en face, ceux qui pensent que la dimension éthique de la recherche n'est en rien incompatible avec la poursuite du profit, et qui seraient donc les grands vainqueurs, qui sont les grands vainqueurs de la séquence, dit M. Stéphane Lauer. La société a été lancée en 2015. Elle a été conçue comme une organisation à but non lucratif pour créer une intelligence artificielle générale de façon sûre et bénéfique pour l'humanité. Mais le projet s'est vite heurté à une limite de taille, l'argent. L'IA nécessite de gros investissements afin de bénéficier de la puissance de calcul de superordinateurs indispensables pour mouliner les quantités de données permettant à la machine d'apprendre et, dit-il, à être de plus intelligente. Il met bien sûr des guillemets autour d'intelligent. Mais les dotations philanthropiques qui ont permis d'amorcer l'aventure ont été insuffisantes. Et donc ça a poussé Altman à trouver d'autres sources de financement. Et dès 2018, ce qu'il a peut-être caché à son conseil d'administration qui lui reprochait des cachotteries, disons, je crois, il a obtenu le feu vert. Enfin, ce que je dis là, je n'ai pas dans l'article. C'est une supposition, j'ai peut-être pas compris. Il a obtenu le feu vert pour créer une filiale à but commercial, capable de lever de l'argent auprès d'investisseurs, à commencer par Microsoft. Et donc, même si cette nouvelle entité restait supervisée par un conseil d'administration attaché à œuvrer pour le bien de l'humanité, l'article dit le ver était dans le fruit. Il était écrit que Microsoft, qui a déjà injecté 10 milliards de dollars, soit 9,1 milliards d'euros, ne se contenterait pas de satisfaire les objectifs sociétaux d'OpenAI dès lors que la société pouvait se transformer en poule aux œufs d'or, tandis que la course à l'IA s'emballe. Et tout a basculé avec le spectaculaire succès de ChatGPT, lancé il y a un an. Les limites de cette gouvernance, qu'il appelle bancale, sont apparues lorsque Sam Altman a décidé d'accélérer le développement commercial de la société. Et l'une des administratrices de l'OpenAI, Ellen Toner, directrice du Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de l'université de Georgetown à Washington, a commencé à critiquer en creux, dans un article scientifique, la stratégie d'OpenAI. Et avec deux co-auteurs, qui sont Andrew Imbri et Joan G. Daniels, elle saluait la décision de son concurrent, Anthropic, de ne pas commercialiser Claude, l'équivalent de ChatGPT, car les trois chercheurs soulignaient qu'entre opportunités économiques et risques technologiques, Anthropic avait fait le bon choix. Et donc pour le PDG, cet affront ne pouvait pas rester sans suite, écrit M. Stéphane Lauer dans son article. Mais il se trouve que c'est Ellen Toner, donc la directrice, qui dans un premier temps a obtenu gain de cause en écartant le PDG, accusé d'accélérer la mutation de la société de façon trop rapide et un peu trop transparente vis-à-vis... Peu transparente, et non pas un peu trop... trop peu transparente donc vis-à-vis de son conseil d'administration. Et cette conviction a été renforcée quelques jours plus tard. Cette conviction a été renforcée quelques jours avant qu'il soit débarqué, quand des administrateurs ont appris qu'OpenAI venait de réaliser une percée révolutionnaire baptisée Q étoile. Et donc on ne sait pas trop encore ce que fait cette Q étoile, mais apparemment il y a une percée par rapport à l'OpenAI. Et donc en droit, le conseil d'administration était fondé à Contagier Altman, qui de fait trahissait la raison d'être d'OpenAI. Ce qui s'est passé, malheureusement pour elle, c'est que la mobilisation en faveur du PDG et de la quasi-totalité des salariés de la société, ainsi que la direction de Microsoft, a permis de retourner la situation en sa faveur. Ils ont tous menacé de démissionner. Et donc, c'est désormais aux empêcheurs de tourner en rond du conseil d'administration de faire leur valise. Donc il dit, on peut tirer trois leçons de cet épisode. La première est que celui qui détient le capital, celui qui in fine décide, est celui qui, in fine, décide. Ça, c'est pas nouveau. Microsoft a obtenu le maintien de Sam Altman à son poste, mais aussi un siège d'administrateur et surtout une remise à plat de la gouvernance censée lever les ambiguïtés qui ont conduit au psychodrame. Le deuxième enseignement signifie la fin d'une utopie, celle d'une entreprise aux allures de fondation qui promettait de publier ses recherches en accès libre et capable de faire concurrence aux géants de l'Internet pour le développement d'une IA responsable. Et en l'espace d'une semaine, OpenAI est devenu une excroissance d'un géant de l'informatique dont la finalité sera avant tout de faire de l'argent. Et là, je vous parlerai d'autres choses un peu plus tard. La composition du conseil d'administration, qui doit recruter 9 nouveaux membres, sera un bon indicateur de l'orientation future de la société. Bon, voilà. La troisième leçon, la plus importante, est qu'il n'a jamais été aussi urgent de mettre en place une régulation de l'IA capable d'encadrer les ambitions des apprentis sorciers. Malgré les professions de foi bienveillantes, les promesses d'autorégulation et de contribution mirifique à l'humanité, ils risquent à tout moment de se faire submerger par leur hubris, leur avidité ou celle et celle de leurs bailleurs de fonds. Et donc c'est une affaire trop sérieuse, dit-il, l'auteur de l'article, M. Stéphane Lauer, pour la laisser aux seules mains du capital. La façon dont le pouvoir démesuré des géants de l'Internet s'est imposé ces dernières années doit nous inciter cette fois à procéder différemment, car les conséquences sur nos existences pourraient être encore bien plus dévastatrices. Alors, il y a eu un tas d'articles que je ne vais pas citer, mais il y a eu une grande réunion en Angleterre sur l'intelligence artificielle. Ce qui ressort de ça, c'est que lors de l'entraînement de ces intelligences, elle utilise des textes qui existent. Or, il y a la question du droit d'auteur qui se pose. Et pour l'instant, les auteurs sont dépossédés de tout droit, alors que l'intelligence artificielle utilise leurs textes pour s'entraîner. Il n'y a pas que les auteurs, il y a les gens qui font de la peinture, enfin, il y a tous les artistes. Tous les gens qui utilisent le droit d'auteur pour vivre, quoi. Donc ça pose des nouveaux problèmes, ce truc-là. Et puis, bon, voilà, ça, c'est tout pour l'instant. Et puis, j'ai trouvé un bouquin que je trouve extraordinaire, mais je n'ai pas terminé, mais peut-être que j'en parlerai en fin d'émission s'il y a le temps. Il s'agit d'un livre de M. David Chavalarias, Toxic Data, préfacé par Cédric Villani, qui est, comme vous savez, un matheux, et qui a écrit « Tous les citoyens devraient lire cet essai qui explique mieux qu'aucun autre pourquoi les big tech menacent la démocratie et comment leur résister. » Comment dire ? Je me suis amusé à aller sur le site, et donc je peux peut-être conseiller aux gens d'aller sur un site dont le nom est Politoscope, avec des O, hein, politoscope.org. Et là, il y a un truc amusant, c'est un truc pour vous appâter, disons, sur Saccage Paris. Votre perception de la propreté dépend-elle de vos opinions politiques? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils analysent les tweets de ce qui s'appelait avant Twitter et qu'ils appellent maintenant X, mais à l'époque, ça s'appelait Twitter quand ils ont fait l'étude. Et donc, disent que la campagne dièse saccage Paris a été activée et continue sur Twitter depuis avril 21, consistant à donner ou amplifier la perception d'une ville sale et mal gérée. Elle visait la gestion d'Anne Hidalgo en tant que maire de Paris, mais aussi en tant que candidate à la présidentielle, comme en témoigne un tweet qu'il cite après. Et il se pose la question, dans quelle mesure le mouvement a-t-il été massif sur Twitter? Dans quelle mesure était-il représentatif des Parisiens? Et donc il arrive à analyser les tweets que les gens retweetent sans modification. Et donc, il continue en disant, on pourrait penser que si la question de la propreté de Paris était perçue comme systémique par une grande partie des Parisiens, elle serait partagée de manière relativement uniforme dans la population, indépendamment des opinions politiques. Et à minima, l'ensemble des opposants politiques de la mairie de Paris exprimeraient leur mécontentement avec une vigueur comparable. Or, il dit que ce n'est pas ce qu'on observe. Il y a des graphiques qui suivent. Donc, le site, je répète, c'est politoscope.org. Et vous verrez qu'il y a un certain nombre de sujets, et j'ai choisi celui-ci parce qu'il est encore d'actualité, disons. Il dit, c'est pas ce qu'on observe, comme on peut le voir sur le film ci-après, donc vous le verrez pas, en ce moment en tout cas, ce qui pointe vers l'existence de campagnes d'influence en ligne, probablement coordonnées, dont les buts étaient principalement d'ordre politique avant d'être hygiéniques. Et ce qu'il note, c'est que il y a à peu près 25 000 comptes sur plus de 5,2 millions qui sont référencés sur la période considérée qui ont relayé cette campagne. 25 000 sur 5 millions. Soit moins de 0,05%. Sur ces 25 000 comptes, moins de 5 500 ont fait plus de 3 tweets sur ce thème en 10 mois. Mais les plus actifs en ont fait 16 000. C'est donc un cœur de militants hyperactifs qui a attaqué la gestion de la ville via ses campagnes d'influence qui auront généré plus de 300 000 messages enregistrés par le Politoscope. Ce cœur, il est proche du groupe Changer Paris, qui est la principale force d'opposition à la mairie de Paris au sein du Conseil de Paris, et il se situe dans la sphère informationnelle des Républicains, tout en restant à sa périphérie. Et le deuxième gros ensemble qui a retweeté, c'est des gens, c'est les macronistes. Le Politoscope, il précise limitation et biais potentiel. Le Politoscope ne recense pas tous les tweets de manière exhaustive. Par ailleurs, il enregistre des tweets de comptes non parisiens qui n'ont que faire de l'état de propriété de la ville de Paris. Mais même si on a sous-évalué d'un ordre de grandeur la proportion de personnes qui prennent ce sujet à cœur, on peut estimer que moins de 1% des comptes Twitter parisiens se sont préoccupés de cette affaire. Malgré cela, grâce à une coordination et une activité de publication frénétique, le cœur des militants les plus réactifs a réussi à faire apparaître le hashtag Saccage Paris et ses dérivés en tendance Twitter à plusieurs reprises, donnant l'impression d'une adhésion massive aux idées qu'il véhiculait. Alors là où on sort des campagnes d'influence par Internet, et c'est ça qui est important, disons, c'est que ça a été suffisant pour que la presse en parle et que ça impacte la campagne d'Anne Hidalgo à l'époque sur les débats sur la gestion de la ville. Donc il montre des graphiques pour justifier un peu ses affirmations. Et il conclut en disant qu'il y a là un cas typique d'instrumentalisation des réseaux sociaux, des failles, des algorithmes de recommandation pour amplifier une parole politique et modifier la perception des citoyens. Il faut aussi compter avec le phénomène de chambre d'écho. Alors il explique dans son bouquin dont je vous donnais le titre, qui s'appelle Toxic Data, ce que c'est qu'une chambre d'écho. 25 000 comptes représentent peu de choses à l'échelle de la population de Paris, mais si vous vous retrouvez au milieu de cette foule numérique, vous aurez vite fait l'impression qu'ils sont majoritaires. Bon, l'opération aura été un succès, eh bien, on sait que Mme Hidalgo a été réélue et qu'elle a fait un très faible score, comme à la présidentielle. Bon, voilà. Quelques communautés politiques ont participé à cette campagne. Alors, ils ont compté Saccage Paris, Paris Saccage, Paris Déchetterie, Paris Poubelle, Saccage Paris dans le politoscope. Les Républicains ont la tendance politique, sont la tendance politique majoritaire sur ce thème, puis La République En Marche, les deux principaux partis ayant brigué la ville de Paris lors des dernières municipales. Bon, donc c'est un truc pour introduire des choses où j'essaierai de parler un peu de ce livre dont je suis arrivé à la moitié et ça m'a tellement intéressé et choqué que je me dis qu'il faudrait en parler ici et qui s'appelle Toxic Data de David Chavalarias.
À quelles éditions ?
Édition Flammarion, c'est un bouquin qui coûte 10 euros et que j'ai eu par hasard au centre Pompidou à la librairie.
Ah, j'ai un problème avec... Non, c'est bon, personne ne continue. Stop, j'ai un problème avec ce CD. Je voulais te couper la parole parce que tu avais déjà un peu trop parlé, mon cher. Donc, je ne sais pas pourquoi on t'entend encore. Oui, c'est ok.
I'll be
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4. Radio Libertaire, c'est The Post Non-Radio Show. Je pense qu'on a à peu près tout compris, il me semble, Yves, de ce que tu as dit. C'était certes intéressant, mais voilà. On passe...
mais voilà quoi.
Mais voilà, ben voilà, c'est tout. C'était très intéressant. C'est intéressant, l'IA.
Ouais.
Tu sais que maintenant, en France, il y a une radio qui est en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer les animateurs.
Laquelle ?
Pardon, laquelle ?
Oui.
C'est une radio du groupe FG et qui s'appelle Dance One. Et tu as une voix qui a été faite par l'intelligence artificielle et qui est une voix en anglais et puis il y a une voix en français également. Et donc c'est une radio musicale, hein, donc bon, ça peut se comprendre. C'est pas une radio parlée. Hein,
Elle fait juste les jingles.
Elle fait les jingles, mais elle fait des petites descriptions du single qui va passer, des choses comme ça en fait, voilà.
Ah d'accord.
Okay. Et c'est la première fois qu'on utilise en France, en tout cas en France et même en Europe, qu'on utilise en tout cas l'intelligence artificielle pour faire un programme radio, voilà.
La première fois. Ils n'auront jamais une IA comme moi qui est humaine et parfaitement synthétique.
Oui, tout à fait, mais je ne pense pas que ça va remplacer énormément parce qu'on a besoin de... Mais au bout, on doit pouvoir de toute manière...
Non, mais au bout du bout, t'imagines un monde exclusivement où tout, il n'y aurait que des IA, c'est-à-dire que au final... À la télé, présentateurs, émissions, radio, journaux, écrits par ChatGPT, cinéma, publicité, etc. Tout serait des IA. Donc tous les êtres humains seraient exclus de leur propre champ de savoir et de faire.
Mm-hmm.
Ça serait un monde atroce. Ouais. Atroce où c'est cette espèce d'artificialité qui là nous paraît être une magnifique avancée et un super gadget. Imaginez donc ce que je vous dis, on serait tout remplacé par des IA. Et nous alors?
Eh oui.
Tu sembles penser que c'est pas possible, mais en fait la position de française.
On ferait quoi? Serait là à écouter ces putains de robots de merde. Nous faire des émissions de radio, nous choisir des titres, etc. Et être notre environnement culturel, social, politique, etc. Mais c'est absolument ignoble.
Non, je pense que de toute manière, il y a toujours la main de l'homme derrière.
C'est non, c'est pas possible. Oui, mais la main de l'homme, elle serait plus là. Elle serait là, mais avec que des...
Mais il n'est pas question de ça, il est question de fric, hein.
Oui. Non,
mais il est question d'argent, c'est tout.
Oui,
c'est une question d'argent. Là, en ce moment, on se fait faire la leçon par la Grande-Bretagne et les États-Unis sur notre position, parce que même la Chine a adopté dans son projet de législation sur l'IA une position plus favorable aux créateurs que celle de l'Hexagone. On est à l'origine, nous, les Français, du droit d'auteur, et on ne défend pas la propriété intellectuelle actuellement.
Ça me semble être un monde... Complètement, mais c'est une horreur, quoi. Cette espèce de délire IA à tout prix. J'espère que ça n'adviendra jamais. Mais on serait relégué à quoi ? À être là, à exister, à faire quoi ? Et
C'est pas si simple.
À aimer des groupes composés de IA qui feraient de la musique faite par des IA, qui passeraient sur des radios. C'est absolument.
Écoute, j'ai lu un article récemment sur Internet, donc j'ai pas une trace,
mais
j'ai
un peu en tête. Dégueulasse.
Où il parlait d'une avancée qui nous faisait gagner 800 ans dans la découverte de cristaux auxquels on n'avait pas pensé et que ChatGPT a trouvé Et donc, on ne s'attendait pas du tout, quoi.
Non, mais tant mieux, mais qu'un monde totalement remplacé par des IA...
C'est un monde qui va très vite.
Alors, on n'a plus qu'à ne plus exister, quoi.
À la limite, la musique composée par les IA, à la limite, mais encore, bon, ça ne remplace pas...
Non. Ni présentée par des IA, voilà. Ni avec des fausses présentatrices, ni des faux modèles sur Instagram... C'est très sympa, ça fait gadget, la modernité, mais non.
Si, ça va arriver, parce que c'est une question de fric. Ça risque d'arriver, et donc si on ne met pas des limites très fermes à la façon dont ça fonctionne, on va avoir quelques surprises, disons, au niveau de l'emploi.
Mais qui veut de ce monde ?
Ah, mais ça, c'est pas leur problème. C'est pas du tout le problème des gens qui investissent. Pour que Microsoft investisse Microsoft. 10 milliards de dollars dans ce truc, c'est qu'elle espère faire beaucoup plus de profit avec. Donc, c'est pas parce que tu veux pas que ça va s'arrêter.
Moi, je veux pas.
Le fric derrière.
Ouais. On deviendra, excusez-moi, je vais faire du bip. On deviendra un groupe de terreau bip pour. Saccager les sacs à bip, les IA et bip bip. Voilà. Donc.
Grosse ou petite
hein. Grosse ou petite, oui. Donc le futur
mais
sera composé.
Il y a ce problème, et puis il y a le problème.
Sera composé d'êtres humains, terreau bip, qui s'attaqueront aux IA.
Mais il
voilà.
y a bien plus grave que se sentir mal à l'aise vis-à-vis d'une IA qui nous remplaçait, etc.
Non, moi, je trouve ça...
Le problème, c'est que, d'après le bouquin là, dont j'ai déjà parlé, à savoir Toxic Data, ces intelligences artificielles sont capables de renforcer la façon dont sont manipulées nos opinions, ce qui est déjà le cas. Et donc, ce qu'on considérait comme un système électoral démocratique, en fait... le vote, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, on considérait que si lors du vote tout se passait bien, le vote était honnête. Or, les problèmes se trouvent avant. Les problèmes se créent avant le vote. Ils ne sont pas au moment du dépouillement, ils sont avant. Je citais un exemple tout à l'heure. Quand on a des élections, il est interdit de publier des sondages ou de publier une information sur laquelle les autres n'auraient pas le temps de répondre. Bon, très bien. Ça reste. Mais si, sans aborder le système politique lui-même, on a suffisamment clivé la population sur certains sujets, comme régularisation d'immigrés ou pas, etc. Ou banlieue contre... banlieue pauvre contre campagne, etc. Enfin, des clivages. Quoi que ce soit, mes clivages.